Mama, can I, huh? Mama, can I, huh? Can I, mama, won't you please let me, mama, can I, huh?
Jamais un maton s'est permis de mettre une gifle.
Ouverture d'une porte de cellule. Ouverture.
Je regarde s'ils sont présents, mais je les fais bouger pour voir s'ils sont bien vivants.
Vous allez rencontrer des psychiatres, des psychologues. Ils sont observés en permanence. Les surveillants participent à l'observation. Vous allez rencontrer des psychiatres.
Bon, messieurs, distribution des couteaux.
Le rôle de l'administration pénitentiaire s'est écrasé. Déshumanisé. Deux salles ouvrant la télé.
Un maton.
Dans les cours de promenade.
Un maton.
Des psychologues.
Un maton.
Salut.
Et bonsoir. Il est 20h, vous êtes sur Radio Dio 89.5 et vous écoutez l'émission Papillon contre toutes les prisons. A priori, normalement, vous l'écoutez aussi sur Radio Canu 102.2. Et on remercie les gens de la petite cuillère d'assurer la diffusion.
Merci.
Et du coup, on rappelle que l'émission Papillon, c'est une semaine sur deux en alternance du coup avec la petite cuillère sur Radio Canu. Et si vous voulez, on essaye d'avoir des témoignages et
On dit pas témoignages.
On dit quoi alors?
Des opinions.
Des opinions de gens qui sont à l'intérieur du coup, ou des proches. Et du coup, par exemple, si vous voulez nous écrire, vous pouvez écrire à emissionpapillon@riseup.net. Ou sinon, pour écrire, c'est...
Émission Papillon, chez CSA La Gueule Noire, 16 rue du plus loin Mont MONT, 42100 Saint-Étienne, CEDEX.
Pour envoyer vos opinions. Au programme, ce soir, on va avoir du coup des brèves. On aura une lettre d'un... prisonnier de Bourg-en-Bresse, et puis ensuite on aura notre rubrique Il a bon dos le terreau.
Voilà,
c'est ça.
Avec une lettre du coup d'AFED et un petit exposé.
Ouais, deux trois données, deux trois avis sur et l'islam d'un côté en tôle et le traitement du terrorisme en tôle, je sais pas comment dire, depuis les derniers attentats.
Voilà. D'actualité.
C'est ça. Alors on va commencer rapidement par deux petites brèves qu'on a glanées par-ci par-là. La première, c'est une histoire assez tarée qui en dit long sur comment l'administration pénitentiaire traite les vivants, mais elle traite aussi comme de la merde les morts. Alors en l'occurrence, c'est quelque chose qui est paru dans la presse locale, hein, dans Ouest France très exactement. Et donc le 2 janvier dernier, il y a un détenu qui s'est suicidé au mitard de la maison d'arrêt de Beaupréau. Alors à vérifier la maison d'arrêt, mais en tout cas dans l'Aisne, dans l'Ouest. Et sa sœur n'arrive pas à récupérer donc tous ses vêtements, ses effets personnels, sa sacoche et ses papiers. Et à cause de ça, en plus de ça, bon, c'est anecdotique, mais il continue de payer une assurance voiture parce qu'il peut, elle peut pas récupérer ses voitures et qu'il s'est suicidé à la prison. Donc en fait, la raison de tout ça, c'est que en gros, il lui demande, elle a appelé le SPIP pour quand après le suicide de son frère pour pouvoir récupérer ses papiers. Ils lui ont indiqué qu'il fallait un certificat d'hérédité. Du coup, elle s'est pointée à la prison avec le livret de famille et est arrivée à la prison. On lui a dit « Ah, mais ça se passe pas comme ça, ma petite dame. » En gros, un livret de famille, c'est pas considéré comme un certificat d'hérédité. Donc, le directeur de la maison d'arrêt, qui cite, hein, qui est protégé par un article du Code civil, l'article 730, entre guillemets, il dit le certificat d'hérédité est une disposition légale dont je ne peux me détourner. Et il dit je ne peux aller contre la réglementation. Donc le truc c'est que la mairie elle délivre plus ce document. Donc du coup sa sœur est obligée de passer un notaire et de payer en gros entre 150 et 200 euros pour pouvoir récupérer ce certificat
son hérédité, du
et
coup.
Pour pouvoir récupérer. Récupérer les affaires de son frère.
Du coup, il est vraiment crado, ce directeur, qui sert du droit quand ça l'arrange.
Le droit, c'est tout pour toi, non ?
C'est un peu ça. C'est
là,
marrant.
Pour le coup, le ça lui sert, quoi.
Bah, le droit lui sert.
Alors que c'est les premiers à pas respecter ceux des détenus, quoi.
Donc, alors peut-être qu'ils attendent qu'il ait purgé sa peine fictive vu qu'il est mort et que ça se trouve il avait 10 ans à faire et ça se trouve dans 10 ans
peut-être qu'ils lui enverront.
C'est-à-dire qu'ils te détiennent dans tous les sens du terme même quand t'es mort, quoi. Donc voilà, donc ça c'était la première brève. Une autre brève, donc ça c'est...
Non mais attends, du oui, coup juste en deux secondes, surtout qu'il y a eu quand même plusieurs suicides, genre je sais plus c'est dans quelle maison d'arrêt, mais il y a eu en une semaine, il y a eu trois suicides dans la même tôle. À Valence, il y a aussi une nana qui était retrouvée, enfin qui s'est suicidée, et en fait tout le monde s'en fout de ça. Et genre c'est plus en mode, enfin quand il y a quelqu'un qui suit un prisonnier et combien il y en a qui sont immolés devant Pôle Emploi etc, et ça personne n'en parle, mais par contre quand il y a un flic qui se suicide, là tout ça fait la une des journaux et du coup voilà quoi. Et du coup sinon c'est vraiment crado, parce que vraiment tout le monde s'en branle en fait de ces gens qui meurent à l'intérieur, et puis parce que de toute manière comme le dit le bon adage populaire, et ben c'est bien fait pour leur gueule, et c'est souvent ça qu'on entend quoi, ils ont bien fait, ils l'ont payé et puis voilà. Donc voilà, la prison c'est pas le Club Med.
Ouais, et juste un petit détail hein, que j'ai, une petite info que je... Bon, elle a porté plainte déjà contre la maison d'arrêt pour le suicide de son frère. Voilà. Du coup, oui, la deuxième petite brève, donc ça c'est un truc qui a été sorti par l'OIP, qui a été publié sur le site de rebellion.info. Donc ça se passe à Villefranche-sur-Saône. Où, donc là c'est pareil, c'est une histoire de maintien de liens familiaux hein, dont voilà, l'administration pénitentiaire est censée normalement maintenir ces liens. Donc c'est deux jeunes bon, qui s'appellent Julie et Romain, ça c'est un détail. Donc ils ont une histoire. Romain est incarcéré à la maison d'arrêt de Villefranche, et donc Julie fait une demande de parloir. Et il lui refuse ce parloir au motif que 5 ans plus tôt, donc quand elle avait 14 ans, elle avait été interpellée en train de fumer un joint de cannabis dans la cour de son collège. Et du coup, elle avait écopé d'un rappel à la loi, non mentionné au casier judiciaire et ne pouvant entraîner de poursuites judiciaires. Donc voilà, donc en gros le refus, comme quoi la justice, tous ces fichiers, ça vous lâche jamais, même 5 ans plus tard, elle veut aller visiter son compagnon et elle peut pas. Donc elle avait déposé un recours gracieux auprès de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon, qui ont normalement à ce moment-là 2 mois pour répondre. Et pour se prononcer sur leur décision. Et du coup, quand ils ne répondent pas, c'est-à-dire que c'est un rejet, du coup, Julie a toujours pas reçu de réponse de la DISP. Et à ce moment-là, il faut faire un recours au tribunal administratif de Lyon, qui est une démarche qui est assez longue et assez fastidieuse. Tout ça pour un permis de visite.
Et du coup, ça fait combien de temps qu'il est incarcéré ?
Alors ça, je sais pas exactement. Depuis.
En gros, il a pris un parloir avec sa grand-mère, je crois.
Ouais, c'est ça.
C'est un truc comme ça, et il voit personne d'autre.
Ouais, ouais, c'est ça. Voilà.
Les déboires administratifs.
Exactement.
Sympa.
C'est bien aux petites mesquineries comme ça que tu vois que c'est carrément du totalitarisme, la tôle.
Ah ouais, c'est
le moindre truc, le moindre, que ça soit du décès, au moindre parloir, c'est bien. Accroyer la bannière.
Parce que quand t'as 19 ans, t'arrives dans cet univers, c'est toi à Villefranche en plus, c'est pas réputé pour être une prison sympathique, enfin hein, comme toutes les autres, hein, mais celle-là, voilà.
C'est réputé pour ses matons.
Voilà. Et quelque chose qui pourrait te faire tenir à cet âge-là, non, c'est mort.
Et peut-être que justement, ils cherchent à ce qu'ils se suicident, ça doit être ça. Quelque part, ça leur sert, hein, ça leur fait une personne de moins à gérer. Hein.
C'est l'unique moyen qu'ils ont trouvé pour lutter contre la surpopulation, et qui se planifient de la surpopulation. Ouais.
C'est ça.
Donc du coup...
On continue avec la petite lettre.
La suite, c'est du coup la lettre d'un prisonnier de Bourg-en-Bresse qui était envoyé en février. En février, et du coup, il parle de comment il s'est fait envoyer à l'isolement et comment, pareil, là encore une petite histoire de l'administration pénitentiaire qui s'amuse à gérer ou pas gérer les affaires perso des prisonniers. Déjà que c'est déjà que entre les cantines ou alors faire rentrer des trucs en prison, c'est compliqué. Si en plus ils s'amusent à les perdre, ça devient vachement moins drôle. Alors, le 18 février à Bourg-en-Bresse. Je me permets de vous écrire pour vous faire part des problèmes que je rencontre au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, où je suis actuellement détenu. Depuis l'agression d'un détenu qui a eu lieu le 22 novembre 2014 dans l'aile du centre de détention à laquelle je suis affecté. J'étais le jour même en début de soirée changé de bâtiment sans aucune explication, ni audition, et sans aucune de mes affaires. Le lendemain, le 23, toujours sans explication ni audition pour une quelconque enquête, j'ai été placé au quartier d'isolement. De plus, ce jour-là était un dimanche où j'avais un parloir, mais ma compagne s'est vue refuser l'accès au parloir sans aucune explication des surveillants. Toujours le 23, quand on m'a enfin ramené mes affaires, il me manquait plusieurs de mes affaires, notamment ma chaîne Hi-Fi, mon lecteur DVD, des cantines et plusieurs affaires de toilette qui ne m'ont toujours pas été rendues depuis. Donc c'est pas juste des petites affaires, hein, c'est chaîne Hi-Fi, DVD et pas mal d'autres choses. Dans la semaine qui a suivi, je suis passé en débat contradictoire pour statuer sur mon maintien en quartier d'isolement. Lors de ce débat, on m'a expliqué que j'étais accusé d'avoir participé à l'agression de ce détenu et que j'étais donc placé à l'isolement pour une durée de 3 mois minimum, alors qu'une fois encore, je n'avais pas été entendu en audition pour donner ou recevoir des explications, ni par l'administration pénitentiaire, ni par aucun service de police qui serait éventuellement chargé d'une enquête. 3 semaines plus tard, j'ai été placé en garde à vue pour violence aggravée, puis reconduit au centre pénitentiaire 24 heures plus tard, sans voir de juge ni connaître la suite des événements et étant toujours placé à l'isolement. Ce n'est que le mercredi 11 février que la police est revenue me chercher pour m'emmener au tribunal en vue d'une comparution immédiate pour laquelle j'ai demandé un report qui était fixé au 12 mars. Lors de mon déferrement, j'ai appris qu'un deuxième détenu était lui aussi poursuivi pour les mêmes faits que moi, qu'il avait été placé dans l'aile du régime fermé le lendemain des faits, mais qui depuis peut-être avait été replacé en aile ouverte, donc qui n'était plus à l'isolement. Je ne comprends pas comment sur 2 détenus soi-disant poursuivis pour les mêmes faits, l'un est remis en quartier ouvert et l'autre est maintenu en isolement. De plus, lors de mon placement à l'isolement, on m'a expliqué que cela était pour l'enquête ainsi que pour la sécurité de la victime et des témoins. Une date de jugement ayant été fixée, l'enquête est donc terminée. De plus, la victime a été transférée et le seul détenu ayant témoigné contre moi est lui aussi à l'isolement à quelques cellules de moi. Je ne comprends donc pas ce que je fais encore à l'isolement. Je dois repasser d'ici quelques jours en débat contradictoire pour savoir... s'il me renouvelle l'isolement, car le 23 février, cela fera 3 mois que j'y suis. De plus, depuis mon placement à l'isolement, ma famille a beaucoup de mal à réserver des parloirs et s'est vue à de multiples reprises refuser la réservation de parloirs sans aucune explication. Je ne sais plus quoi faire et j'ai besoin d'aide pour démêler cette situation plus que compliquée. Signé Romain. Voilà.
Bon, du coup, enfin, cette lettre, je crois qu'il maintenant il est plus à Bourg-en-Bresse, il est à Rouen.
Ouais, il était transféré au centre de détention.
Ouais,
de
Rouen. C'est ça. Ouais. Et du coup, surtout ce qui s'est passé, c'est que début janvier, en fait, il y a eu une petite révolte de la part des détenus de Bourg-en-Bresse. Alors, si mes souvenirs sont bons, parce que j'ai pas le papier sous les yeux, mais on en reparlera si on a plus d'infos. C'était pour ça s'est passé dans la salle d'activité Et sur, bah voilà, il y avait des revendications par rapport aux conditions de détention, etc. Et du coup, c'est parti en cacahuète et et ça a balancé les trucs dans la salle d'activité, etc. Et ça a donné lieu, surtout parce que justement, ils étaient dans la revendication, ça a donné lieu à des placements à l'isolement pour ceux qui ont été identifiés comme meneurs et pour d'autres à des transferts, en fait. Donc voilà. Donc du coup, on en reparlera la prochaine fois. Je suis désolée, j'ai oublié les petites infos que j'avais vues. Et voilà, donc on en reparlera en tout cas. Et affaire à suivre pour Bourg-en-Bresse.
Et puis du coup, on essaiera de suivre aussi
son
affaire et voir comment ça se déroule. Puisque là, du coup, il était censé avoir le report de sa comparution immédiate il y a 2 semaines. Du coup, voilà.
Mais du coup, ça, c'est vraiment un classique, en fait, de, bah, dès qu'il se passe quelque chose, un problème dans la détention et tout, il parlait du régime fermé. Par exemple, bon, je ne sais pas ce qu'il en est pour Bourg-en-Bresse, mais on sait que, par exemple, à Rouen, et surtout dans toutes les nouvelles prisons qui se construisent, il y a les régimes en détention sont de plus en plus différenciés. C'est-à-dire qu'en fonction du comportement... que l'administration va identifier chez un prisonnier, si elle décide de dire que bah, celui-là, il est potentiellement casse-couille, que celui-là, ça va, il est pas trop chiant, machin. En fonction de ça, en fait, elle va gérer ses effectifs au sein de la détention et les placer à des endroits différents. Donc du coup, le régime fermé, bah, c'est le B ou le D0. Et en fait, dans ce régime, on est enfermé, enfin les prisonniers sont enfermés 23 heures sur 24 par jour dans des cages, dans des cellules qui sont des cages. Et en fait, ça, c'est des placements qui sont complètement arbitraires, qui ne passent pas devant des commissions de discipline. Et c'est vraiment sur la base des déclarations des surveillants. Donc voilà, donc du coup comme ça élimine la procédure administrative de passer devant un prétoire et ça permet bah, de sanctionner en disant bah, toi tu iras en régime fermé et il n'y a pas de délai fixé comme ça, c'est vraiment si il y en a qui traînent mais des années, il y en a ça fait 2 ans qu'ils y traînent et ils continueront d'y traîner. Et voilà, donc c'est un régime différent, c'est aussi un régime punitif en fait.
Mais c'est la prison,
bah, c'est un moyen.
C'est la prison, encore dans la prison en fait.
C'est un moyen de gestion de plus,
voilà.
Quoi.
C'est exactement ça. C'est pas le mitard, c'est pas l'isolement, c'est pas le petit quartier, parce que le petit quartier c'est encore autre chose. Mais voilà, c'est pas le mitard, c'est pas l'isolement.
Non,
c'est là c'est vraiment
gros, si
le D0, et si tu tiens pas tranquille.
Tu vas en bas quoi.
Voilà,
enfin,
tu
en bas,
prends le bâton et hop, tu vas en bas, tu descends. Donc voilà.
Avec
ça,
ouais, le fait d'avoir là dans l'histoire de Romain, c'est d'avoir plusieurs prisonniers qui sont concernés et que l'administration elle leur file à chacun, bah, du coup, comme tu dis, un régime de détention différent. Du coup, là, savoir lui, ce qui lui prend la tête et ce qu'il dit dans la lettre, c'est qu'il comprend pas pourquoi pour exactement les mêmes choses, ils n'ont pas des régimes similaires, pourquoi ils n'ont pas des punitions similaires, puis alors ils vont jamais donner d'explication et ils vont s'amuser à bah, je sais pas, ça va faire des parano les uns sur les autres.
Et par exemple, il y avait Gogo qui était prisonnier à Rouen et qui a été du coup là qui en ce moment est toujours à l'isolement à Bourg-en-Bresse. À Rouen, il avait eu de nombreux problèmes avec les surveillants. Il avait été accompagné à l'époque aussi par l'OIP et du coup voilà, il avait beaucoup de pression de la part des surveillants, notamment sur ses parloirs, suppression de parloirs, enfin pression sur sa femme au parloir quand elle venait, enfin bref, c'était hyper pénible et il avait été placé à l'isolement à Rouen. Et en fait récemment, donc lui il avait fait une procédure devant le tribunal administratif pour faire annuler ce placement à l'isolement comme quoi et prouver que c'était un placement abusif, parce que l'isolement c'est en plus encore un autre type de régime que ce que je viens de vous expliquer sur les régimes fermés. Et en fait il a obtenu du coup là devant le tribunal administratif, lui a donné gain de cause en disant oui effectivement c'est bien un placement abusif et en plus du coup l'État doit le dédommager d'une certaine somme. Donc voilà, je parle pas assez devant le micro. Donc l'État doit aussi le dédommager. En tout cas, là, de l'isolement à Bourg-en, de l'isolement à Rouen, voilà, a été transféré ensuite à Bourg-en-Bresse. Et là, à Bourg-en-Bresse, aujourd'hui, encore pour des raisons, voilà, genre en gros, problème dans la détention, machin, là, il a été placé à l'isolement. Donc voilà, et reconduit comme ça, puisque là, c'est des procédures de reconduction.
Et tu sais combien de temps ça lui a pris pour faire du coup cette démarche d'avoir...
C'était en 2012-2013, donc on est sur du long terme.
Ouais. Il faut avoir le temps, l'énergie, la motivation.
Il faut avoir l'énergie et c'est chaud. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On va peut-être passer un petit morceau de musique maintenant ?
Ouais. Et après, on passe à...
On lira la lettre.
Ce qui fait parler tout le monde en ce moment, le terrorisme.
Il a bon dos, le terreau.
Premier attentat. Si tu veux t'entendre, je te neurone. Soir, j'ai pas trouvé d'autre thème que la liberté palestinienne, te dit. Ok, pour la France sarkozienne, ça fait Cassos des HLM dans nos têtes, ça fait suce-moi l'Iran et la Corée du Nord. Ces fils du béton, toujours aussi Faya sur tous les vampires du monopole. À Bagdad, le sang est noir comme le pétrole. Et si le monde bascule quand s'écroulent les deux tours, c'est sûrement Babylone s'y caché dans l'arrière-cour. J'ai plastiqué mon poste de télévision, puis j'ai plastiqué l'Elysée et Matignon. Hier, un gosse est mort d'une balle dans le quartier. Trop de misère, le ghetto est sur le point de... Global, le monde est un cannibal. Global, le monde pue la mort comme à Bhopal. PP mobile, Shell, Elf et Total. Nike, McDonald's, Apple et Coca-Cola. Laissons passer les frangins du Hezbollah. Obama est le plus armé des mollas. Au siège du Front National. Au ministère de l'identité nationale. Notre cher président Edriss hors de feu. Trop d'essence dans le texte, c'est le feu sacré des banlieues. 22-22, v'là les bleus trop nerveux. Les petits frères ont un pain de plastique dans les yeux. Suffit d'une étincelle pour allumer l'enfer. Je chante indépendance comme les grands-pères. Orient, Occident, le choc des cultures. Troisième millénaire, écoute le son du futur. Que tout le monde reste bien à l'abri chez soi. Hors la loi, j'ai écrit un attentat. Né, nourri, broyé par le système. On s'étonne quand dans l'arène explose une bombe humaine. Quel présent, le passé a déjà violé l'époque. Demain, le tiers-monde envahira l'Europe. Désolé, mais l'égalité a un goût de chiotte. La vérité ne rime que des gunshots. Bolloré, Pinot, Dassault, Lagardère. Goldman and Sachs, Rothschild et Rockefeller. Le MNR, le bloc identitaire. Parce que seule l'intelligence est révolutionnaire. Mon art est un monstre, la ville est sa tanière. Sans barreaux ni frontières, mon art est une... Tout sa terre, protégez vos arrières. C'est un rappeur, lui ou Carlos ou la bande à Bader. On m'a menti sur mon histoire, j'ai ressorti les dossiers des tiroirs. Ma conscience a fait comme quand tes amis te maudissent ton cœur. Comme quand une femme te trahit ton cœur. Ici la jungle, ça sert à rien de te plaindre. Ici la jungle, ça sert à rien de jeindre. Les mots font mal, explosion lyricale. Dommages collatéraux comme leur frappe chirurgicale. La banque européenne, la réserve fédérale. Les familles Berlusconi, Bush et Sarkozy. Maldon à l'hôtel Sheraton. G8, je prépare des petits fours au plutonium. Babylone, Rome, Sodome et Gomorre. Et le fils du béton chante toujours plus.
Il ne fait aucun doute que la menace d'attentat existe, mais elle peut aussi être instrumentalisée par les gouvernements.
Novembre 2005, Clichy sous bois, Intifada. Le 3, c'est Al-Qaïda, Hiroshima.
Vous êtes un dangereux, un homme. Vous savez bien, on entend dire que vous sentez le soufre, hein, que vous ne serez pas fréquentable.
Et voilà, toujours à l'écoute de Papillon sur Radio Dio 89.5 à Saint-Étienne et Radio Canu 102.2 à Lyon.
Ouais, alors du coup, on va continuer avec la lecture d'un texte d'AFED. Donc AFED, on en avait parlé, un des fondateurs de l'Envolée, et voilà, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, début février. Et voilà, donc il a écrit pas mal de textes, il était voleur, il était écrivain, Et là, ce texte a été écrit en 2008 et il avait été publié sur un blog qu'il tenait sur le Nouvel Obs. Et en fait, il avait déjà à l'époque analysé le jeu de l'islam en prison, enfin de la religion et notamment de l'islam en prison. Et du coup, voilà en quoi ça servait l'administration pénitentiaire que l'islam et pignon sur les coursives, en fait, voilà, et en cellule. Donc du coup, je vais vous en faire la lecture. Ce mardi 30 septembre au soir, au journal de 20h sur TF1, dont on connaît l'extrême délicatesse, l'un des sujets sera l'islamisation en milieu carcéral et la possibilité que les prisons soient des viviers terroristes. En voilà une coïncidence, juste le jour qui clôt le mois de Ramadan. Ce sont les téléspectateurs musulmans qui vont être ravis. Pour ce 20h, donc sous réserve de passage à la trappe, une journaliste m'a interviewé. Elle me fera probablement dire « Je ne suis dupe de rien », en 2 minutes de montage pour 3 quarts d'heure filmé, ce que TF1 voudra bien me faire dire. À savoir apporter de l'eau à leur moulin. J'espère me tromper. Je connais les risques de ce genre d'intervention et j'assume. Si je réponds toujours positivement à ces demandes, c'est pour une raison simple. Je préfère leur voler 2 minutes en débitant des conneries plutôt que laisser ces 2 minutes à un autre qui ferait consciemment de l'intox. Il n'y a pas d'islamisation radicale dans les prisons françaises. Prison qui, soit dit en passant, ne se transforme pas en boîte d'intérim pour terroristes potentiels. Si c'était le cas, au sein d'un des pouvoirs répressifs de l'État que sont les prisons, il y aurait des attentats violents intramuros. Le fameux djihad commencerait sur place par des agressions mortelles sur le personnel pénitentiaire. Et ce qui n'est pas le cas. Je vais essayer de développer. Ce n'est pas la pensée religieuse qui islamise la population carcérale, mais l'indigence sociale. Il faut savoir que 90% de cette population est en état de grande paupérisation. C'est l'indigence qui fait que même des Français d'origine française basculent en écoutant les discussions que les musulmans tiennent comme de véritables colloques dans les recoins des cours de promenade, sur des pelouses pouilleuses ou sous des préaux insalubres. En dehors des affinités amicales, petits groupes de droit commun se connaissant du dehors, les musulmans sont les seuls à pratiquer la notion de partage et d'entraide. Entre détenus musulmans, ou en voie de le devenir, et ne se connaissant pas, peu de choses sont mises en commun. Des timbres jusqu'à la nourriture, l'essentiel se donne entre musulmans, à part l'institution qui gère les indigents leur procurant une humiliante charité. Un prisonnier sans le sou doit réclamer un autre rouleau de papier WC en cas de courante s'il a utilisé le rouleau mensuellement distribué. C'est dire, que se passe-t-il donc dans nos bonnes vieilles prisons ? C'est simple, depuis le début des années 90, après les grandes émeutes revendicatrices de la fin des années 80, l'administration pénitentiaire a encouragé l'islamisation afin d'assurer la pacification des prisons. De la même manière que les élus, maires et autres, ont appelé les imams de tout poil à la rescousse lors des émeutes de banlieue. De nombreux procès ont eu lieu dans les années 80 où des mutins plutôt gauchistes ont été lourdement condamnés. De nombreux transferts de soi-disant meneurs ont cassé l'œil mouvement tout en les dispatchant aux quatre coins de la France carcérale. Pour l'exemple, moi-même, incarcéré à Fleury-Mérogis où se concentrent aux heures de promenade entre 100 et 200 détenus, au bout de 2 jours, la direction m'a fait transférer à Fresnes où nous étions que 2 en promenade. Une manière de désamorcer, encore là, ce qui me semble malheureusement possible, car une... Ah, pardon. Je suis pas sur la bonne page. Ah, la suite, qui peut me la donner ?
Faut pas mélanger tes notes.
Merde. Et qui peux-tu là ?
Non, je l'ai pas emmené. Ouais.
Ah, pardon, elle est là. Donc je reprends ma phrase. Elle était devant moi. Tac.
On coupera le montage.
Ouais, non, il n'y a pas de montage.
T'aurais pu balancer un morceau de zik.
C'est du direct.
C'est les joies du direct, chers auditeurs et auditrices.
Attendez, j'ai fait quoi de la première feuille du coup ? Merde.
Elle est tout en tout.
Elle est tout en dessous. Oh, mais arrêtez de ma folie. Je la vois.
Cette fois, je te numérotraitais pas avant l'émission.
Oui, c'est bon. Alors, je reprends le paragraphe. Putain, merde, maintenant, je vais ricaner. Alors, je reprends. Donc, on disait, voilà, que on reprend. Donc, la place des imams en prison, la place des imams en banlieue. Voilà, quand ça pète, ils ont un rôle. Donc, pour synthétiser vite, ils ont un rôle en fait de paix sociale. Tac, et voilà, donc là je reprends. De nombreux procès ont eu lieu dans les années 80 où des mutins plutôt gauchistes ont été lourdement condamnés. De nombreux transferts de soi-disant meneurs ont cassé les mouvements, tout en les dispatchant aux quatre coins de la France carcérale. Pour l'exemple, moi-même, incarcéré à Fleury-Mérogis où se concentrent aux heures de promenade entre 100 et 200 détenus, au bout de 2 jours, la direction m'a fait transférer à Fresnes où nous n'étions que 2 en promenade. Une manière de désamorcer une possible prise de parole auprès de mes 200 co-détenus dans un des bâtiments de Fleury-Mérogis. Pourquoi encourager l'islamisation dans les prisons et de quelle manière ? L'administration pénitentiaire a facilité la prise de parole de certains musulmans imams autoproclamés. Une manière de caïda contre des prisonniers pouvant créer des mouvements de revendication sociale. Aussi bête et simple que ça. L'administration pénitentiaire a été prise alors à son propre jeu quand les jeunes prisonniers, sensibles au discours religieux, se sont insensiblement mis à observer une bonne hygiène de vie. Beaucoup ont cessé de fumer shit et tabac. Ils se sont mis au sport ou ont changé de langage. La vulgarité verbale indispose le divin. Ils se sont moins bagarrés entre eux et se sont moins débarrassés petit à petit de cette addiction terrible, intramuros, à la pornographie qui éteint le prisonnier frustré sexuellement. Mais le pire pour l'administration pénitentiaire, c'est d'observer que le prisonnier devenu musulman ne fréquentait quasiment plus le dealer légal qui siège dans toute bonne pharmacie de prison, la lecture du Coran devenant une sorte de règlement intérieur. Bref, un cerveau oxygéné est moins malléable et la prison ne devient plus un lieu de punition sociale pour ces jeunes musulmans, mais une épreuve envoyée par Dieu pour les éprouver. Dieu ayant décidé que ces jeunes devaient faire de la prison, la justice des hommes devient peanuts et n'a plus prise ni sur leur corps ni sur leur conscience. La volonté divine prime sur la fatalité sociale. L'administration pénitentiaire perd son rôle d'épouvantail et son pouvoir de rétorsion. Avant l'abrutissement généré par l'administration pénitentiaire, par la télé, etc., se confrontait à l'abêtissement distillé par le religieux. Faire venir des imams en prison, pendant longtemps ils ont refusé de reconnaître le culte musulman, c'est casser les imams autoproclamés qui revendiquent uniquement pour leur culte. L'administration pénitentiaire s'est laissée dépasser par cette nouvelle génération de prisonniers pour la simple et bonne raison qu'elle n'a plus prise sur eux. Quant au terrorisme, il n'est plus à craindre des milieux intellectuels et étudiants que des prisonniers musulmans qui, une fois sortis, pour pouvoir bouffer, retournent dans la spirale de la survie économique et reprennent illico leur petit business. Après la discrimination vient la criminalisation. Montrer les prisons comme étant des lieux générant le terrorisme en est la parfaite démonstration. Il est vrai que quelques imbéciles se laissent prendre à ce piège. J'ai moi-même eu quelques soucis en tant que maghrébin athée face à la pression communautariste, mais sans jamais parvenir au point de rupture et toujours à cause de 2 ou 3 illuminés, certainement bien plus mécréants que moi, qui cherchaient à se créer un statut dans la religiosité à outrance. Et comme disait l'autre, j'ai rencontré Dieu en prison. Que faisait-il là ? Oh, bah il était là pour escroquerie. Voilà, c'était signé Afed, l'athégriste, Afed Ben Othman, le 30 septembre 2008. Donc voilà, un sujet qui... Enfin, un texte qu'il est important de lire et de diffuser, surtout en ce moment, quoi.
Ouais, il tombe pile poil dans le vif du sujet, ouais.
Pile poil. Donc voilà.
Mais du coup, ouais, je suis retombé assez vite sur des trucs qui renvoient à ça. Mais si ça vous va, je veux bien expliquer un peu les genres de mesures qui, depuis quelques mois, là, sont prises un peu au sein des tôles, pour voir comment concrètement ça se joue pour les tôlards en ce moment, ou pour l'administration pénitentiaire, l'autre extrémité de la lorgnette.
Bah, moi, ça me va. Hein.
Ouais.
Bah, moi, ça me va pas trop.
C'est pas grave, tu peux lui faire un tour pendant ce temps. Et du coup, là, évidemment, toutes les questions sur et le terrorisme et l'islam, qui bien évidemment vont ensemble, comme c'est une évidence partagée en ce moment à peu près par toute la France, ça fait suite un peu à ces... aux attentats qu'il y a eu en janvier là. Mais avant de parler du post-attentat, je voulais rembobiner un petit peu à l'automne dernier, en fait, vu qu'on a déjà eu une loi antiterroriste toute fraîche à l'automne dernier, qui nous a pas empêché d'ailleurs de nous...
Putain, excuse-moi, je te coupe, mais c'est vrai, heureusement que le pilote de l'avion, là, il était...
Heureusement qu'il était blond aux yeux bleus, ouais, parce que...
Putain, heureusement qu'il était dépressif, sinon là, on serait vraiment dans la merde au vu de tout ce que tu vas nous dire, là, ça serait le pompon, quoi.
Et du coup, là, c'est clair qu'il aurait été un peu trop bondé, là. C'était reparti pour un tour, mais bref. Du coup, là, les histoires de régimes spéciaux pour les islamistes ou les terroristes, les deux étant un peu confus dans la tête de la paix, là, ils ont commencé déjà à Fresnes, déjà depuis l'automne dernier, en fait, où il y a eu des tentatives, les premiers tests de regroupement de tous les gens incarcérés pour terrorisme islamiste dans des quartiers séparés au sein de la détention. Alors, c'était une expérimentation depuis octobre qui, du coup, est tombée pile poil dans le fil de l'actualité après janvier, là. Et donc, tout le monde s'est frotté les mains et tout le monde était bien content. J'imagine que le directeur de Fresnes, il devait plus se sentir, quoi. Il devait se sentir l'avant-garde éclairée de son administration de merde. Et ce qui est marrant, c'est quand même, c'est une anecdote, ça n'a rien d'intéressant, mais juste pour faire marrer. Ils ont été regroupés, séparés du reste de la détention dans le quartier où on trouve les keufs, les douaniers et les journalistes qui sont incarcérés. Donc, je vous imagine le cocktail. Ça doit être mortel, mais bref. Donc voilà, juste histoire de les... Comme les autres détenus plus VIP, là, c'est de les couper du reste de la détention.
Le quartier où il y a les keufs, les douaniers et...
Et les journalistes.
Et les journalistes. Ouais, bon, ouais. Le quartier qui doit pas être bien, bien rempli.
C'est pour ça qu'ils ont de la place.
Ouais.
Du coup, là, il y a eu... Donc depuis octobre, il y a eu 22 détenus islamistes radicaux, comme on dit là, qui ont été... Qui ont tous été incarcérés pour terrorisme, genre retour de Syrie, etc. Qui étaient regroupés dans ce quartier. Et l'administration pénitentiaire, alors sûrement que ça recoupe peut-être une part de vérité, après il faut se méfier quand même parce que c'est le directeur de Fresnes qui dit ça, il disait que c'était suite à des pressions et à des plaintes d'autres détenus, en fait, de vouloir encadrer un petit peu de trop près la vie de leurs camarades de détention dans les quartiers ordinaires, entre guillemets. Et du coup, voilà, dans les petites ingéniosités de la prison, ils ont choisi les cellules en fonction que les fenêtres soient orientées de telle manière qu'ils puissent pas faire l'appel à la prière pour les autres détenus. Ils ont choisi exprès chaque cellule qui avait des fenêtres orientées dans le bon sens pour leur petit quartier islamiste, là. Et du coup, voilà, on en arrive après les attentats de janvier. Après ce petit préambule, cette petite mise en bouche à Fresnes, c'est qu'ils ont décidé, c'était beaucoup Valls et Taubira en première ligne, là, et Cazeneuve, ils ont décidé que ces quartiers dédiés aux radicaux islamistes, ils vont être étendus à Fleury-Mérogis, Lille, Annelin et Osny. Donc il y a quatre maisons d'arrêt en tout. Et voilà, en attribuant des surveillants supplémentaires, ils ont aussi...
C'est tout dans le nord de la France, du coup.
Ouais, et il y a eu beaucoup de reproches de fait par la presse sécuritaire, qui est très inquiète, parce qu'il y a beaucoup plus de radicaux islamistes et de barbus dans le sud. Et du coup, voilà...
Mais du coup, ça veut dire que pour les familles de ces gens, quand elles sont dans le sud, elles doivent se taper des trajets de ouf, quoi.
Mais c'est dû encore à moitié expérimental. Bon, en fait, vous vous doutez bien, c'est hyper critiqué comme mesure de regrouper des gens qui sont accusés d'associations de malfaiteurs pour commettre des actes terroristes. Vous les regroupez, vous leur donnez des quartiers spéciaux dans les tôles. Moi, j'ai pas d'avis sur la question dans le sens où je pense que ça soit la tôle ou l'antiterrorisme, c'est le cadet de mes soucis. Mais en tout cas, ils se font taper sur les doigts entre eux. Vous voyez ce que je veux dire, entre gestionnaires éclairés là.
Il y a des syndicats de surveillants qui sont un peu plus ou moins contre.
Ouais, il y a beaucoup de critiques de la part des syndicats de surveillants. Mais bon, du coup, voilà, de toute façon, tant qu'ils cherchent à gérer des machins ingérables, du coup, il faut pas qu'ils espèrent avoir des solutions miracles. Hein, mais bon. Et du coup, voilà, il y a des attributions de surveillance supplémentaires. Ils vont nommer 44 officiers de renseignement pénitentiaire, histoire de fliquer encore un peu plus les taulards. Donc 44 officiers de renseignement pénitentiaire pour les réseaux terroristes, soi-disant. Mais j'imagine, comme c'est le cas avec toutes les législations antiterroristes, que ça va vite être utile pour des tas d'autres affaires et d'autres...
Du coup, j'ai vu ça, c'est un truc assez récent, non, d'ailleurs.
C'est du frais. Carrément, c'est depuis la dernière vague d'attentats. C'est les personnels qu'ils ont concrètement décidé d'attribuer à l'administration pénitentiaire pour la gestion des islamistes, quoi.
C'est des super matons.
Et je crois que ça rentre dans le cadre de la...
Il existe déjà un service du renseignement pénitentiaire, en plus.
Mais là, du coup, il va y en avoir des attribués spécialement...
Mais qui devraient être intégrés au renseignement en général. Enfin, là, voilà, c'est ça.
Mais du coup, tu vas voir, il y a plein de trucs aussi de coordination avec d'autres services qui existent déjà. Parce que du coup, ils vont nommer, ils disent 22 informaticiens pour les fouilles de cellules, pour pouvoir pomper le matos informatique des détenus quand ils sont serrés du matos informatique. Et 14 informaticiens aussi pour surveiller les réseaux sociaux et les comportements suspects. C'était formulé comme ça dans le texte. Du coup, je trouve ça toujours marrant de... des gens qui vont surveiller les comportements suspects, quand on voit ce que c'est les comportements suspects, ils vont être bien occupés, surtout qu'ils sont que 14. Ouais. Bref. Et voilà, et il y a un directeur et un conseiller d'insertion et de probation qui vont être nommés référents à Paname, à l'unité de coordination de la lutte antiterroriste, pour mieux coordonner qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des tôles avec la répression à l'extérieur. Du coup, histoire de peaufiner un peu le...
En fait, déjà qu'ils étaient à l'isolement, mais là, c'est un isolement...
Un isolement sous pression à fond, parce qu'avec tout ce petit personnel pour les surveiller, même s'ils vont être bientôt plus que les 22 de Fresnes, hein, je vous donnerai les chiffres après, mais en gros, vous voulez le nombre de détenus qui sont écroués dans ce genre de cas. C'est pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme en général, toutes tendances confondues. Ils sont 283 en France. Et 152 islamistes. Du coup, ils vont être occupés. Et ce qui est marrant quand même dans les petites anecdotes, c'est qu'ils sont 152 islamistes, mais avec le flou des législations et des inculpations antiterroristes.
Ouais, alors c'est ça qu'il faut rappeler, c'est que c'est eux qui... C'est l'AP et la justice qui mettent
des
étiquettes.
Exactement, c'est des étiquettes de l'AP. Je les reprends telles quelles. Mais évidemment, ça demanderait des heures de critiques et de quasiment de leur rironner, quoi. Mais parce que justement dans les petites ambiguïtés comme ça de la législation antiterroriste, il y a 152 islamistes qui sont incarcérés pour terrorisme, mais il y en a combien de considérés comme dangereux par la chancellerie? Il y en a 60. Donc bon, faut m'expliquer déjà les gens qui sont pas dangereux, pourquoi ils sont
occupés. Le bon terroriste et le mauvais terroriste.
C'est du texto, quoi. La chancellerie, ils en considèrent 60 comme vraiment dangereux. Donc les autres, on suppose que c'est un peu de la blague. Ils devaient connaître les mauvaises personnes. Ouais. Ils devaient être de passage le jour d'une descente de la brigade antiterroriste. On peut pas savoir, mais bon.
Mais alors du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils regroupent les méchants avec les très méchants et les moins méchants. Ouais. Du coup, enfin, ils sont en train de faire.
Ils s'en sortent pas en vrai.
Ils sont en train de faire n'importe quoi en fait.
Même sur leur truc sécuritaire à eux, à la Normoyne-Neuve, ils sont en train de se débattre dans un truc ingérable qu'ils ont créé eux-mêmes, quoi, en fait. Et voilà, dans les petites blagues aussi au sein de l'AP, dans les structures donc, qui existaient déjà, dont tu parlais, là, moi j'ai retrouvé la trace un peu là d'une cellule qu'ils appellent EMS3, et qui est à la direction d'administration pénitentiaire, et où il y a 10 personnes qui bossent sur les questions de renseignement, entre autres de crimes et délits politiques, là, sur la paix. Et alors il paraît que même au sein de l'administration pénitentiaire et de leurs collègues de boulot, etc., ils ont vraiment la réputation de se branler la nuit toute la journée, parce qu'il paraît qu'ils attendent qu'il y ait de l'information qui remonte des centres, mais que personne s'en occupe. Et qu'il paraît qu'ils... enfin, j'ai lu plusieurs trucs comme ça où ils sont vraiment réputés vraiment des guignols, quoi.
Ils font des longues pauses café.
Voilà, exactement. Et voilà, dans les autres mesures qui étaient préconisées, on en avait parlé en off il y a quelques temps, c'était les brouilleurs de téléphone aussi. Mais alors du coup, les 10 qui se bandent la nouille à Paname, je me demande ce qu'ils vont foutre si on brouille en plus les communications des téléphones portables, parce que là, pour traiter de l'info terroriste, etc., etc., ils vont vraiment se retrouver encore plus au chômage technique, quoi. Du coup, je sais pas. Voilà, on va pas les plaindre non plus. Hein. Et du coup, sur les histoires de dispositions aussi techniques dans ce cadre, il y a toute la question de l'encellulement individuel aussi. Et beaucoup de matons ou de gérants de la petite entreprise administration pénitentiaire, ils reprochent le fait que pour des questions de sécurité et de limiter l'endoctrinement, soi-disant, et le prosélytisme, ben en fait, au détriment des autres détenus, qui vont être encore plus en surpopulation, ils vont donner des cellules individuelles à chaque terroriste islamiste incarcéré, etc. Ouais. Mais du coup, il y a quelqu'un d'intelligent et de malin qui a trouvé une solution. Ouais. François Fillon. François Fillon qui propose du coup double peine pour tous les étrangers islamistes. Comme ça, on est tranquille, ça réduit le problème de surveillance ingérable, de surpopulation carcérale, etc., etc. Ce qui, techniquement, n'est pas complètement con comme raisonnement, même si c'est franchement dégueulasse. En plus, il parle de rétablir la double peine comme si elle avait été abolie à un moment. Alors que la double peine, ils avaient levé le pied.
C'est-à-dire renvoyé dans le pays d'origine.
Voilà, exactement. Expulsion pour tous les gens qui ont une autre nationalité que la nationalité française.
Ouais.
Expulsion dans le pays dont vous êtes originaire ou administrativement vous êtes ressortissant. Pour histoire voilà, de se débarrasser du...
C'est
pour
les
fardeau que la République française s'est créée à sa juste mesure.
C'est pure pompage de Patriot Act.
Ouais, ouais.
Et pour les autres, du coup
Et ben, vu que je pense que dans la tête de Fillon, les terroristes, c'est forcément des étrangers,
ouais.
Il imagine qu'il a réglé le problème comme ça.
Ouais. Alors, il fait quoi pour ceux qui ont la nationalité française?
Pour les enfants perdus de la République, tu veux dire?
Non, mais qui ont juste la nationalité française et pas d'autres, ils deviennent apatrides?
Eh ben non, pour les ceux qui ont la nationalité française et pas d'autres, on les garde avec 12 matons pour un détenu.
Ah
du
oui,
coup,
oui,
grosso modo, s'ils mettent en... ils vont dormir avec les matons, bouffer avec les matons. Enfin, bref, ça va être super confortable. Et ouais, je vous passe les détails de leur délire là sur les petites recherches. C'était bien. Je savais pas si j'avais envie de pleurer ou de rire, quoi, mais bref. Et les motivations, évidemment, de toutes ces mesures. Là, toutes les mesures antiterroristes toutes fraîches, c'est les attentats de janvier. Et c'est le fait que, en gros, tous les shérifs Kouachi, Hamedi Koulibaly, Mohamed Merah, Medine Mouche, Khaled Kelkal, ils sont tous passés par la tôle.
Mmh. Et oui.
Si terroristes sur Guerre Plus en France, ils sont tous passés par la tôle. Du coup, dans le cerveau, comment dire, le vif du petit administrateur français, et ben c'est forcément c'est l'atoll qui produit le terrorisme. Ils ne se sont pas posé la question plus loin de qu'est-ce qui amène les gens et à des actes de résistance violents ou de pétage de pont ou quelle que soit la manière dont on les voit, et le passage en tôle préalable, des trucs un peu plus un peu plus fins, ça ne leur est pas passé par la tête, quoi. Et bref, et ce qui est révélateur, c'est que c'est sinon, quoi. Enfin, par rapport à la parano et au délire sécuritaire et antiterroriste et aux mesures qui pèse sur tout le monde qui vote dans la foulée. Et au sein des tôles, encore plus, on voyait toutes les petites mesquineries de l'administration pénitentiaire, même pour des circonstances quotidiennes qui, un peu anodines, entre guillemets. Déjà, vu la pression que c'est, en plus avec des climats comme le climat actuel, là, le moindre fait d'être bronzé ou d'être musulman pratiquant ou de quoi que ce soit, tout va devenir prétexte à se faire casser les burnes, tout le temps, sur tout, en fait. Ça va être la carte blanche au moins. Et voilà, je rappelle quand même, c'est intéressant de savoir que c'est sinon. Sinon, sur les 20 dernières années en France, quoi.
Ouais.
C'est tout.
Mais après, ils servent de cette excuse-là aussi pour d'autres.
Ah bah,
enfin,
là, ouais.
Pas que pour le terrorisme, quoi. Mais c'est
le Joker.
C'est l'excuse qui ressort à chaque fois quand c'est des histoires de grand banditisme ou de trafic de drogue ou quoi. C'est que ils sont. Enfin, la prison, c'est une école, quoi.
Et bah,
a priori.
C'est sûr. Mais après, moi, j'ai une solution. Hein, s'ils sont en panne d'idées pour. Si la prison les met à se prendre dans la merde, ils ont qu'à l'abolir. Hein. Ça serait peut-être résoudre pas mal de leurs emmerdes. Comme ça, ils dormiraient mieux la nuit, ils feraient moins chier le monde. Enfin, bref. Mais ouais, sur les... Je trouve plus la page où j'avais noté ça, mais pour j'avais lu les statistiques des écoutes, combien il y a d'écoutes qui sont pratiquées, tout le bordel, comment elles sont justifiées devant les magistrats. Et les écoutes, typiquement, ça a été dans les trucs, ça a été hyper assoupli sur des prétextes de terrorisme. Et en fait, vous m'excuserez de ne pas avoir retrouvé dans mes notes, c'est classique ce soir. En gros, des écoutes pour le terrorisme. Maintenant, il y en a, c'est une toute petite minorité. En fait, dans les écoutes qui sont ou les interceptions de mails, etc., qui sont pratiquées, ça a été introduit pour le terrorisme ou des crimes et délits comme la pédophilie et tous les trucs spectaculaires comme ça. Et vraiment, je vous jure, dans les stats officielles, maintenant c'est une proportion ridicule. Et c'est des affaires de stup, tu sais même pas si c'est des grosses affaires de stup. T'as même une case divers où t'as plein de plein d'écoutes qui sont classées dans divers au ministère de la Justice. C'est quand même marrant, divers, c'est intéressant comme catégorie juridique, quoi. C'est super rassurant, quoi. Enfin bref. Et ouais, du coup, vous les causez un peu plus de l'islam en tôle, ça représente quoi et combien de personnes et tout ça aussi en général, parce que dans ce que moi je trouve intéressant, c'est les paranoïas sur les chiffres aussi, quoi. Parce que en fait, en cherchant juste des trucs tout cons sur internet, on trouve des tas de chiffres mensongers, plein de trucs de faf pur et dur. Et du coup, par rapport aux 6 terroristes condamnés là, dont je parlais tout à l'heure, qui sont passés par la tôle, avant de se faire exécuter froidement et hors de tout procès, soit dit en passant, et ben la proportion de musulmans pratiquants dans la population carcérale, comme on dit, et c'est assez, ça a l'air assez fiable comme chiffre, parce que en fait c'est tous les détenus qui demandent des repas pour le Ramadan, enfin qui demandent pour l'adaptation pour le Ramadan, pour les repas, etc. Ça fait à peine un tout petit tiers des détenus, en fait, des musulmans pratiquants. Et le petit tiers qui devient, selon un ancien conseiller de Sarko, qui est député UMP et qui a fait un rapport sur l'islamisation de la prison il n'y a pas longtemps, le petit tiers des détenus est devenu 60% dans son rapport. Mmh. Et puis sur plein d'autres sites un peu faf ou sionistes d'opinion publique sur Internet, etc., ça devient 80% des détenus. Mmh. Là, c'est pour ça que je voulais préciser un peu aussi pareil. Il y a combien de gens qui pratiquent l'islam en tôle, et
c'est vrai que c'est bien de revenir dessus, parce que dans l'imaginaire collectif, pense que c'est pas du tout,
exactement,
pas du tout ce qu'on a.
En sachant que voilà, donc, c'est les musulmans pratiquants. Donc il n'y a strictement aucune conclusion à en tirer sur le degré de fondamentalisme ou le degré de dangerosité, vu qu'on a vu que les stats, même internes du ministère de la Justice, elles sont un peu ridicules à ce niveau-là, mais bref. Et je vous passe les réactions de Maton aussi à tout ce train de mesures là. Parce qu'il y a vraiment des trucs franchement croquignoles sur le net là, qui font pareil, on sait pas si on doit en rire ou en pleurer là. Mais... Comme quoi les détenus, ils sentent le laxisme politique en ce moment, etc. Du coup, ils en profitent à fond.
Laxisme politique.
Ouais, on l'avait bien senti, le laxisme politique en ce moment, c'est vrai.
Ah, c'est clair. Ouais.
Et dans les préconisations de certains matons qui reviennent dans les médias, dans les communiqués
de presse, etc. C'est des syndiqués, du coup.
Je pense que souvent, si c'est des gens que les journaux ont eu le contact, c'est probablement syndiqués. Des gens qui ont des responsabilités dans les syndicats. Ouais. Par exemple, il y a un truc très intéressant qui sera peut-être voté à l'avenir, hein, vu comment on est parti, c'est d'imposer le français dans les parloirs et les échanges de communication, etc., etc. Parce que ça a toujours été un problème qu'on ne puisse pas comprendre deux arabes qui se parlent entre eux. Et du coup, là, les matons, très sérieusement, il y en a qui proposent d'imposer le français. Ils regrettent que ça soit...
Ça m'étonnerait pas qu'officieusement ça existe déjà.
Oh, bah oui,
ça,
bah, comme d'hab, il doit y avoir deux matons sur trois qui se permettent de le faire.
Un parloir entre deux personnes qui...
C'est sûr.
Et du coup, là, plein de saloperies comme ça qui circulent, c'est abusé. Ils sont déjà en train de préparer le prochain volet antiterroriste de loi ou je sais pas quoi. Mais bref. Et il y a aussi l'autre volet qui est pas du coup sur la détention en elle-même dans toutes ces mesures. Mais c'est tout ce qui va être satellite de la. Enfin, il y a des trucs, ça va être en partie en détention et en partie après la détention aussi. C'est tout le programme de déradicalisation de Taubira là, aussi là. Ils disent déradicalisation, ça fait franchement la manière dont ils le présentent, vous allez voir.
Ils vont faire orange mécanique, on va les asseoir.
Ouais, mais
on
ça
va
sent grave la rééducation, c'est net, quoi. On se croirait au goulag. Sérieux. Ouais. Et du coup, là, c'est pareil, c'est des nominations de postes, des trucs tout cons, mais sans éducateurs et psy qui vont être nommés dans les services d'insertion et de probation. Pour rebondir sur le texte de Hafed, pour boucler la boucle un peu là. Il y a aussi le fait de professionnaliser les aumôniers, en particulier les aumôniers musulmans. Parce que la plupart, c'est des bénévoles, et qui sont vraiment pas pris au sérieux. Alors, ouais, c'est toujours mi-fi, mi-raison. Moi, je suis un peu du point de vue de Hafed au niveau de la sensibilité. Après, c'est vrai que pour les tolards croyants et pratiquants, tu vois que je vais vous dire les chiffres un peu pour les aumôniers qui sont en plus essentiellement bénévoles, mais il y a en gros dans les deux officiels recensés par la paix comme interlocuteurs valables en France, il y a 700 catholiques, 350 protestants, 100 juifs, 180 musulmans, en proportion de la population par confession que je vous ai donné tout à l'heure. C'est vrai qu'on n'y est pas franchement au compte, mais bon. Et en tout cas, bref, peu importe l'intérêt ou pas de la mesure ou sa justice ou pas, mais en tout cas ça fait vraiment penser aussi au conseil consultatif du culte musulman et à tout depuis Sarko et avant ça, depuis la guerre d'Algérie, etc. Le fait que les gentils français blancs trient les bons des méchants musulmans en essayant d'utiliser au maximum la carte du bon musulman pour calmer le jeu, pacifier que ce soit la détention, que ce soit à l'extérieur, dans la société civile, comme on dit, ou je sais pas comment dire, à pacifier les rapports sociaux et surtout qu'il n'y ait pas de conflit de quelque nature qui se soit, quoi. Et voilà, dans les petites anecdotes révélatrices à ce niveau sur le rôle de l'islam, même si je pense que c'est pas homogène l'islam et les musulmans en tôle, mais dans les manières dont l'appel peut en jouer, moi je me souviens de la famille Mostefaoui qui ont perdu un de leurs frères ou fils il y a quelques temps à Lyon, à la maison d'arrêt de Corba. Et effectivement, les matons et les responsables de la paix qui doivent passer leur année entière à baver sur l'islam et les musulmans et à cracher dessus, etc., et la mépriser profondément. Le jour où ils ont dérapé et qu'ils ont, suicidé Sofiane Mostefaoui, ils se sont dépêchés de lui faire les rites funéraires musulmans pour effacer les traces de coups, etc., etc. Et parce qu'une fois que la toilette mortuaire est faite en islam, vous ne pouvez pas retoucher le corps, etc., etc., quoi. Donc c'est la seule fois qu'ils respectent les rites des croyants, etc., etc. C'est pour se couvrir dans une saloperie qu'ils ont faite, quoi. Du coup, ça, c'est des exemples de comment c'est pas forcément honnête et désintéressé, disons. Et voilà, le petit tour de la question sur ce qui attend la question de l'islam en prison, ce qui attend les prisonniers musulmans, les prisonniers islamistes, et du coup, j'imagine très vite tous les autres, vu que ça va sûrement, au moins toutes les mesures techniques, elles vont servir à mettre la misère aux autres. Et du coup, là, alors dans les petites réflexions de Maton sur le programme de déradicalisation là, avec les psys, les éducateurs et les aumôniers en augmentation et tout ça, la grande crainte des Matons, parce qu'on aime toujours parler des craintes des Matons, qu'on on se sent très sensible à leur ressenti, c'est que les détenus ils adhèrent au programme de déradicalisation musulmane, de rééducation là, pour avoir des remises de peine pour les certificats de bonne conduite, quoi. Du coup, la réponse a été trouvée, c'est que du coup, ça sera exclu de tout parcours, a priori, de remise de peine, et liberté de conduite conditionnelle, etc., etc.
Et même pas la petite
Ça sera strictement obligatoire et pas conditionnel, etc., etc. Donc c'est vraiment Orange Mécanique, pour répondre à ta question.
C'est un truc de dingue. On va vous mettre... Bon, et ben du coup, on en reparlera de tout ça, parce que je pense qu'on trouvera d'autres textes,
Il y aura toujours quelque chose à dire.
Ouais. Malheureusement, il y aura toujours des occasions d'en causer. Ouais.
C'est pas la pédophilie, quoi, c'est l'islamisation, quoi.
Déjà rien qu'avec le nouveau projet. Bon, ça concerne pas directement la tôle, hein, mais le projet de loi là qui justement sur le renseignement. Qui devrait passer mi-avril, normalement il va passer en lecture express théoriquement, donc c'est très vite là, très bientôt, où il y a des trucs quand même vraiment vraiment hallucinants, où je pense vraiment qu'il faudrait qu'on revienne dessus et qu'on ait le temps d'étudier un peu le truc. Et pour en revenir juste à un petit truc déjà sur l'ambiguïté du vocabulaire, et ça rejoint un peu de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est sur le terrorisme suite au truc terrorisme islamique, etc., mais ça concerne aussi, alors je sais plus exactement pour quelle mesure, mais en tout cas toute violence collective. Donc déjà dans les violences collectives, tu peux englober plein de trucs. Tu peux englober le stade par exemple, le hooliganisme. Tout ce qui est violence urbaine entre guillemets, hein, je prends leur langage à eux, mais manifestation, voilà tout ça, quoi.
Mais de toute façon le terrorisme il est fait pour être fou, ça sera d'autres occasions d'en causer mieux.
Exactement.
Mais c'est fait pour être fou, pour pouvoir y mettre tout ce qu'on veut, quoi. C'est ça qui est le terrorisme, en fait tous les délits sont faits sur l'intention. T'as peut-être pensé que t'avais peut-être envie de faire un truc. Et sur l'association de malfaiteurs pour une entreprise terroriste, c'est qu'en gros tu fréquentais pas les bonnes personnes. Donc si t'as un de tes potes proches qui part un peu en cacahuète entre guillemets dans leur critère à eux, même si toi t'as pas forcément partagé les modes d'action ou je sais pas quoi, etc., mais tu vas pas aller le balancer non plus aux flics, c'est réglé, quoi. T'es niqué.
Bon, voilà, et ben on a fini, hein, c'est l'heure.
Juste on annonce le rassemblement qui a lieu ce samedi à 10h devant la maison d'arrêt de Valence. Qui a déjà eu lieu, il y a un premier rassemblement qui a eu lieu il y a un mois, donc c'est tous les premiers samedis du mois, et c'est pour c'est un rassemblement silencieux. La dernière fois il y a une banderole qui disait aussi abat toutes les prisons machin, donc voilà, il y avait une trentaine de personnes, et bah, c'est l'occasion de se rencontrer et devant la maison d'arrêt de Valence, et discuter ensemble aussi de ce qui se passait à l'intérieur, etc. Et surtout, un rassemblement, ça permet toujours aussi de dire, en fait, il y a une présence. Et voilà, ce que vous faites à l'intérieur, il y a quand même des gens à l'extérieur qui s'y intéressent. Voilà. Donc, n'hésitez pas à y aller. C'est ce samedi 4 avril à 10h devant la maison d'arrêt de Valence. Voilà.
Voilà. Et ben, nous, on se retrouve dans 2 semaines. J'ai pas la date
tout
exacte.
Tout à fait, le 16
sur cette
avril.
Même, voilà, tout à fait, sur cette même antenne.
Ouais.
Voilà, en attendant, portez-vous bien.
Gardez la pêche.
Voilà. Et à très bientôt.
Ciao.
Ciao. Salut.
Listen, everybody.